Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle maladie rare, la bêta-thalassémie. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Isabelle Turet. Docteur Turet, bonjour.
Bonjour.
Docteur Turet, vous êtes pédiatre, hématologue, praticien hospitalier au sein du service d'hémato-oncologie pédiatrique de l'hôpital de la Timone à Marseille et coordonnatrice du centre de référence syndrome drépanocytaire majeur, thalassémie et autres pathologies rares du globule rouge et de l'érythropoïèse, votre service étant site constitutif de la filière MCGRE. Alors, docteur Turet, ma première question est assez simple et directe. Qu'est-ce que la bêta-thalassémie ?
Bien, donc la bêta-thalassémie est une anémie constitutionnelle liée à un défaut de fabrication de l'hémoglobine, plus exactement un défaut de production des chaînes de la bêta-globine. Dans les formes sévères, les plus sévères, appelées les bêta-thalassémies majeures, l'anémie se manifeste très tôt dans l'enfant, après un intervalle libre de quelques mois, et l'anémie va être profonde et nécessiter des transfusions de globules rouges de manière très régulière. La thalassémie est fréquente dans le monde, très fréquente dans le monde, mais finalement rare en France où on évalue le nombre de patients atteints de formes sévères de thalassémie, de bêta-thalassémie, au nombre de 800. Bon, c'est une maladie génétique, autosomique récessive, donc lorsqu'on considère les différentes catégories de bêta-thalassémie, eh bien, les formes majeures, en général ce sont les formes homozygotes et les formes mineures, où elles sont là hétérozygotes et le sujet n'est pas malade. Il y a une troisième catégorie de bêta-thalassémie qu'on appelle des bêta-thalassémies intermédiaires, parce qu'elles sont de sévérité intermédiaire, et l'anémie ne va pas nécessiter de transfusion régulière, seulement des transfusions occasionnelles. Et le plus souvent, ceci est la conséquence, ce tableau particulier est la conséquence d'une mutation de moindre sévérité sur le gène bêta, des mutations bêta-thalassémiques qui laissent une production résiduelle de chaîne bêta-globine et donc d'hémoglobine.
Et en termes d'expression clinique, docteur Turet, quels sont les principaux symptômes rencontrés chez les patients touchés par cette maladie ?
Alors, on rencontre les symptômes de l'anémie, hein, c'est-à-dire la fatigue, l'essoufflement, la pâleur, l'augmentation du volume de la rate. Et il faut préciser que lorsque les patients sont régulièrement transfusés, avec des taux d'hémoglobine avant la transfusion qui sont de haut niveau, 9 à 10 grammes par décilitre d'hémoglobine, eh bien, les symptômes d'anémie ne sont pas présents et l'enfant, puis l'adulte, peut maintenir une activité et un développement normal. La deuxième catégorie de symptômes qu'on observe dans la thalassémie, c'est la conséquence de ces transfusions régulières, puisque chaque poche de concentré globulaire va apporter du fer pour lequel l'organisme n'a pas de voie d'élimination. Et au fil de ces transfusions, qui sont très fréquentes, hein, puisqu'elles sont réalisées toutes les 3-4 semaines en hôpital de jour, tout au long de la vie, hein, dans les formes majeures, eh bien, ce fer va s'accumuler dans le foie, le cœur, les glandes endocrines. Et donc, la surcharge en fer, si elle n'est pas traitée, va être responsable d'insuffisance cardiaque, de fibrose ou de cirrhose hépatique, d'insuffisance gonadique, d'hypothyroïdie, de diabète et également d'ostéoporose. C'est pour ça que le traitement chélateur du fer est institué précocement, en règle un an et demi après le début des transfusions régulières, afin de prévenir la survenue de toutes ces complications.
Alors, vous abordez la surcharge en fer, docteur Turet. Quelle est la surveillance à proposer à ces patients ?
Alors, la surveillance des patients est centrée donc sur le suivi de cette surcharge en fer. Il y a bien sûr la surveillance et le dépistage des éventuelles complications qu'on a évoquées, hein, c'est-à-dire bilans hormonaux, échographie cardiaque, etc. Et la surveillance du niveau de fer dans l'organisme est assurée d'une part par des bilans biologiques comme le dosage de la ferritinémie qui est fait régulièrement et qui permet de suivre le stock en fer de l'organisme. Et puis surtout, maintenant, depuis une quinzaine d'années, par la pratique d'IRM cardiaque et hépatique. Hein, le signal IRM est sensible à la surcharge tissulaire en fer et la pratique de ces IRM va permettre de quantifier la quantité de fer dans le foie, dans le cœur. Ces IRM sont faites en général une fois par an et elles permettent, en quantifiant le fer dans l'organisme, d'adapter l'intensité du traitement chélateur du fer. En particulier, l'IRM cardiaque a vraiment constitué un progrès majeur dans la prise en charge de ces patients polytransfusés, puisque la première cause de mortalité dans la thalassémie était la décompensation cardiaque liée à la surcharge en fer. Et l'introduction de l'IRM cardiaque dans la surveillance des patients permet de dépister le tout début de la surcharge et d'en faire avant qu'elle ne devienne symptomatique et d'adapter le traitement et donc de prévenir une grande partie des décès d'origine cardiaque.
Eh bien, merci mille fois, Dr Turet, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la bêta-thalassémie. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.